Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Aquí la sombra.
Rares sont les personnes à avoir pu contempler un tigre en train de manger de l'herbe.
Sombra. Entre les grandes surfaces, les plages, les parcs, les occasions ne manquent pas.
C'est pas quoi faire.
Ici l'ombre.
À qui sombre.
Ça va s'appeler comme ça.
Écoutez, Jean-Luc, je pense que je vais vous rappeler d'ici quelques minutes.
En vacances, mes enfants ont besoin de liberté et moi de sérénité.
This is Shade Time.
Indéchirable, hypoallergénique, waterproof.
Ici l'ombre.
Qui sait, ce sera peut-être même la tendance de l'été.
Ici l'ombre.
Écoutez, Jean-Luc, je pense que je vais vous rappeler d'ici quelques minutes pour l'instant.
D'accord, l'antenne vous est ouverte, bien sûr.
Je peux pour l'instant.
Trouvez le monde. Ici, l'ombre.
J'ai commencé à danser comme une folle. Je voulais tout oublier.
Ici, l'ombre.
À qui sombre.
Meilleur temps. Trouvez
le monde.
À qui la sombre.
Ici, l'ombre.
Et maintenant, commençons.
Bonjour à toutes et tous, ici l'ombre en ce mardi, c'est avec Manuel Plaza et nous parlerons aujourd'hui de musique du monde, encore une fois, en compagnie de Christian Florentin. Il est directeur du festival Autre Rivage, un festival nomade en pays d'Uzès, dont la 15e édition se tiendra à partir du 15 juillet et jusqu'au 24, tout autour d'Uzès. Donc ce sera pour dans quelques petites minutes, juste après les bons plans du jour que voici. À Montpellier ce soir, c'est reggae, en tout cas à l'Antirouille, avec Jack Kingdom Night, un mix par Selecta Dalton, avec comme invité Exoduson Family et Greg Furibas. C'est à 21h à l'Antirouille, 12 rue Anatole France, pour une petite entrée à 10€. Et puis notez au passage que l'Antirouille fermera ses portes dès demain, du 14 juillet au 19 août. À la pleine lune, les activités se poursuivent malgré les travaux de voirie. À 21h30 ce soir, vous pourrez aller voir et entendre Samir Tar et Jouba, un concert de musique orientale. La pleine lune se trouve 28 rue du Faubourg Figuerolles, juste à côté du Tractopelle. Au Trunk Fugas, c'est jazz, comme d'habitude, avec ce soir Claudio Della Corte Trio, jazz manouche au programme, donc à partir de 21h30. Le Trunk Fugas se trouve route de Mende, l'entrée est libre. On file à Palavas pour, non pas pour un tour aux piscines, mais pour une soirée électro, Skins Party, organisée par Bad Twins, avec beaucoup d'invités, Danger, Don Rimini, Toxic Avenger, pardon, Cyberpunkers, Seb Danova, et puis pas mal d'autres, sans doute bien connus, des spécialistes du genre. C'est de 19h à 7h du matin aux arènes de Palavas, pour un tarif variant de 25€ à 50€ si vous comptez passer par l'after VIP. A7, c'est le festival Jazz A7 qui se poursuit avec ce soir un hommage à Django Reinhardt, Manoir de mes rêves. C'est le titre de cette soirée avec le guitariste Angelo Debar qui invite le guitariste Rocky Gressé et puis aussi Ludovic Beyer à l'accordéon, Chavolo Hassan à la guitare rythmique, Antonio Licuzati à la contrebasse et Marius Apostol au violon ainsi que Johan Streba à la clarinette. C'est à 21h donc au Théâtre de la Mer à 7 pour un tarif variant de 23 à 25€. Le festival Jazz à 7 a lui aussi son off, un off qui accueille ce soir la formation montpellierenne Soleil Nomade, une formation de jazz manouche qui rendra elle aussi hommage à sa façon à Django Reinhardt. Ce sera à partir de 23h sur la plage de la Hola, route de la Corniche. Nous allons à Fourques. À Fourques, où ça se trouve? Eh bien, c'est un peu loin, c'est dans le Gard. Et vous pourrez y entendre ce soir Gildzin and the Blue Light Mento Band, musique traditionnelle jamaïcaine. C'est à 21h sur la place d'Argence à Fourques. C'est gratuit, c'est dans le cadre du Festival de Radio France. Le Festival de Radio France, c'est aussi bien évidemment à Montpellier avec les jeunes solistes. Aujourd'hui, c'est Francesco Corti au clavecin qui se produit à 12h30 à la salle Pasteur. L'entrée est libre, dépêchez-vous. Ou ne vous dépêchez pas si vous écoutez la rediffusion de cette émission aux alentours de 17h. Et puis, les films de la SACEM nous proposent aujourd'hui « Nous ne pouvons qu'atténuer la haine ». Daniel Barenboim et le West Eastern Divin' Orchestra, c'est à 15h. À la salle Einstein du Quorum, l'entrée est libre, là encore trop tard pour la rediffusion de cette émission. Dans le cadre des rendez-vous de 18h, c'est Anne Kefelek au piano qui interprète des œuvres de Handel et Bach. C'est à 18h évidemment, à la salle Pasteur du Quorum, l'entrée est libre. Et puis, pas de festival de Radio France sans radio, évidemment. Là, c'est France Musique qui tiendra son magazine, animé par Lionel Esparza. C'est en direct à 18h dans la cour Vienne du Musée Fabre. Et puis toujours à l'affiche de l'Opéra Comédie et toujours dans le cadre du Festival de Radio France, Andromaque, opéra d'André-Ernest Gréty, mise en scène par Georges Lavaudant, interprété par Le Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet. C'est à 20h à l'Opéra Comédie, place de la Comédie. Le prix des places varie de 22 à 48 euros. Et un dernier bon plan pour la route. Toujours dans le cadre du Festival de Radio France, c'est le bon plan du jour, selon nous. Il s'agit de Balaké Sissoko et Vincent Segal, un duo de cora et de violoncelle dont on vous a passé de larges extraits de leur album commun tout au long de l'année. L'album s'appelle Chamber Music et ils seront ce soir en concert à 22h au parc municipal de Clapier. C'est gratuit et c'est avec eux que l'on referme ces bons plans avec un extrait donc de cet album en attendant de retrouver Christian Florentin pour parler là encore de musique du monde.
Oti subu ci jo kairo karwose hore jineide ka machi kora nda violoncelle umo wijinde
Thank you.
wartila sha Muhammad Zuzu. Wartila sha Muhammad Zuzu.
Autre rivage musique du monde en pays d'Uzès. C'est la 15e édition qui se tiendra du 15 au 31 juillet. Un festival très prisé des amateurs de musique du monde. On reviendra peut-être sur ce terme un peu galvaudé, comme vous le précisez dans l'édito. Un festival qui a pour particularité de présenter une affiche plutôt éclectique, puisque on retrouve là des musiques du monde, encore ce terme, qui viennent vraiment des cinq continents. L'une des particularités de ce festival, c'est aussi de ne pas proposer, comme vous le dites précisément, de grosses têtes d'affiches telles qu'on peut en voir dans pas mal d'autres festivals consacrés aux musiques du monde. Et c'est la troisième fois que j'emploie ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour vous, musique du monde ?
Oui, on va commencer par là. Donc, il ne s'agit pas de faire une leçon de choses, de définition, mais ce que nous entendons, nous, en tout cas, comme musique du monde, ce sont les musiques qui représentent, on va dire, grosso modo, la culture, l'identité, l'âme d'un peuple. Il y a eu effectivement, parce que vous avez fait allusion, une dérive, on pourrait dire, de cette appellation qui se retrouve un petit peu utilisée à toutes les sauces. Et notamment, il y a un mot qui est un petit peu analogue, qui s'appelle la world music, qui peut finalement nuire peut-être à l'identité d'identification d'une musique. Alors, la world music, c'est une musique que j'apprécie. Il ne s'agit pas d'une charge contre la world music, mais il s'agit là d'une autre démarche, c'est-à-dire une démarche d'utiliser un matériau sonore issu évidemment du patrimoine ethnique traditionnel musical de la planète, de l'agencer éventuellement avec la jonction de sons électroniques ou d'une instrumentation plus contemporaine, et on peut trouver des formes qui sont tout à fait intéressantes également dans la world music. Non, on ne s'agit pas de diaboliser la world music au détriment peut-être des musiques du monde, mais plutôt de définir ce que nous entendons comme musique du monde, donc une musique encore une fois ethnique, symbolisant, représentant l'identité, l'âme d'un peuple et aussi d'une culture.
Voilà, donc des musiques qui ne font aucune concession à une forme d'occidentalisation de la musique du monde, enfin de la world music telle qu'on pourrait la considérer aujourd'hui.
Oui, alors bon, moi je ne suis pas contre le fait que les musiciens doivent gagner leur vie. Soyons bien clairs là-dessus, je comprends très bien qu'il faille imaginer des formatages radio ou des formatages télévisuels qui permettent de pouvoir passer sur les ondes radio ou passer aussi sur les télévisions, parce qu'il y a des exigences comme ça, de timing, et qui font qu'effectivement les créateurs sont en quelque sorte, en tout cas en Occident, un peu contraints de se plier à ces règles. Mais lorsqu'on parle de musique du monde, par exemple, on va en parler un petit peu plus tard, de raga ou de cérémonie Soufia Issawa, on est évidemment hors formatage, on est évidemment hors format télévisuel ou radiophonique occidentaux, puisque une cérémonie à Issawa peut durer jusqu'à 2 heures. Donc il est un peu plus difficile peut-être de pouvoir réserver une plage temps sur une radio pendant 2 heures, même ceux qui sont amoureux de ce genre de musique, ou éventuellement de proposer un raga qui peut durer plusieurs heures, comme vous le savez, qui sont des musiques qui sont évidemment extrêmement longues, et notamment celles qu'on représentera cet été. Donc on profite finalement de cette escale estivale, cette pause estivale, pour proposer dans des lieux intimistes des musiques qu'on n'entend pas souvent, donc des musiques rares, et on invite ceux qui ont envie de découvrir ou de redécouvrir pour certains ces musiques à venir dans ce festival qui propose justement ce genre de démarche.
Donc rareté, c'est l'un des mots clés de l'esprit de ce festival.
Alors rareté, au vu de ce qui se passe en ce moment, la standardisation des scènes estivales autour de ce que j'appelle moi des grosses cylindrées, donc des têtes d'affiches qui sévissent et qui qui vampirise un peu les grandes scènes des festivals du Sud. Bon, il est évident que nous, on fait contraste par rapport à ça, parce que effectivement, ce qu'on appelle une rareté, ce sont des formations qui se produisent pour certaines pour la première fois et depuis de très nombreuses années en France ou en Europe. Voilà, donc c'est la rareté, pas au sens du fait que ces musiques sont rares, elles sont très très prisées et très entendues dans leur pays d'origine. Malheureusement, pour des questions diverses, elles sont moins usitées sur les scènes estivales des festivals européens.
Revenons, si vous voulez bien, sur la genèse de ce festival, dont c'est, je le rappelle, la 15e édition. Qu'est-ce qui a prévalu à la naissance de cette manifestation ?
Bon, ce qui a prévalu à la naissance a été d'abord l'idée autour de l'altérité. Bon, l'altérité, j'enfonce une porte ouverte parce que tout le monde maintenant a entendu ce discours, mais il faut quand même toujours le répéter parce que ça peut être remis en question. La diversité est une richesse, une bonne fois pour toutes, ce n'est pas un motif d'opposition, et donc il faut sans cesse le répéter. Donc ça a été quand même la philosophie, la colonne vertébrale finalement de ce festival, aussi une fragilisation des formes, disons, musicales ethniques, pratiquées par des peuples plus, disons, vulnérables que d'autres, et qui sont, face à une globalisation quand même extrêmement puissante, en voie de disparition. Donc un travail aussi de collectage, de mémoire, qui est entretenu dans ce festival.
Un festival qui se déroule donc à Uzès et tout autour. J'imagine que c'est un long et patient travail de médiation auprès des pouvoirs publics locaux, des municipalités, pour installer un festival comme celui-là.
Oui, c'est un long travail, mais nous avions bénéficié à l'époque, avant que ce festival n'existe, d'un premier galop d'essai au travers des festivals de rue qui s'appelait Insolence Nocturne, que nous organisions sur la ville d'Uzès, où on avait déjà invité à cette époque-là des formations qui venaient de différents endroits du monde. Donc, il y avait déjà quand même une familiarisation au travers de ces festivals de rue, au travers des approches musicales qui venaient d'ailleurs. Donc en fait, lorsqu'on a créé le festival, on partait quand même d'un lit préétabli finalement, établi d'une façon extrêmement large, puisque l'accès de ces spectacles que nous organisions dans les festivals de rue était gratuit, donc ouvert à tous, ce qui fait qu'il y avait eu une oreille, si je peux m'exprimer ainsi, un peu formée par le public local et aussi par les autorités locales. Donc en fait, on n'a pas eu beaucoup de problèmes à l'installer, si ce n'est que, en fait, la grande nouveauté dans les années 95, c'était de prévoir une collaboration intercommunale, ce qui n'était pas du tout évident parce que les communautés de communes n'ont existé que 5 ans après. Et donc l'idée novatrice était de fédérer un certain nombre de communes autour justement d'une idée qui était la défense du patrimoine ethnique de la planète au départ et l'altérité, et de faire comprendre à ces communes qu'en s'unifiant, elles pouvaient permettre à pouvoir faire appel à des financements extérieurs, donc la région, le département et la DRAC, voire le ministère de la Culture, ce qui fait qu'elles ont pu accueillir ainsi des spectacles de très grande qualité avec un investissement évidemment qui était moindre puisqu'ils n'avaient pas la puissance de feu de la région, du département ou du ministère de la Culture.
Pour revenir une dernière fois sur ce que vous appelez des grosses cylindrées, alors on peut voir là autant les artistes qui courent les nombreux festivals que les festivals eux-mêmes, et on sait ici par exemple sur le littoral qu'il y a une sorte de surenchère de festivals musique du monde avec quasiment un festival qui apparaît chaque année et un public qui n'est pas extensible. Quel regard vous portez sur cette vague, si on peut dire?
Bon, s'il s'agit simplement d'une politique animatoire événementielle, d'une municipalité ou d'une entité territoriale qui désire au travers d'un événement faire venir des têtes d'affiche pour faire une opération de communication, je ne voudrais pas aller à l'encontre même de ce que je fais, mais je trouve que c'est un petit peu court comme discours. Enfin, nous, on ne s'inscrit pas en faux par rapport à cela. Effectivement, c'est vrai, il faut qu'il y ait des festivals qui fassent ce genre de démarche. Mais on ne peut pas simplement s'en tenir qu'à la politique événementielle. On travaille un matériau sensible. Il y a quand même des peuples qui sont sur la planète en train de souffrir pas mal pour des raisons diverses. Et finalement, la culture est un moyen pour eux d'affirmer l'identité, une préciosité finalement qui leur aussi autorise à pouvoir fabriquer des défenses. Donc, nous, on insiste beaucoup sur cet aspect. Maintenant, la surenchère qui est faite par certains festivals qui invitent des têtes d'affiche, je suis dubitatif quant à la continuité de ce genre de démarche. Je ne pense pas que ce soit véritablement quelque chose qui sera prolifique dans l'avenir. Je vois plutôt, au bout d'un certain temps, une certaine forme de stérilité. Donc, il faut se méfier de ce genre de démarche. il faut quand même s'en tenir aussi au fait que nous travaillons donc un matériau qui est un matériau sensible, un matériau humain, et que une politique animatoire simplement en matière événementielle pratiquée par des festivals qui font ce genre de surenchère ne suffit pas. Il faut aller au-delà, et c'est ce que nous faisons, c'est d'essayer de travailler dans les lycées, les collèges, les écoles primaires autour d'une sensibilisation et de poser la question, grosso modo, dans une façon plus large, de la place que l'éducation artistique doit occuper dans l'enseignement général, mais aussi quelle est la place que l'altérité doit occuper dans l'enseignement général, parce que c'est ça la véritable finalité. Ce n'est pas faire de la jauge publique, ce n'est pas faire de la communication d'une ville, c'est quand même le vivre ensemble, la diversité, qui est le centre finalement de ce genre de festival.
Nous allons marquer une première pause musicale et nous allons commencer par, par l'Inde qui ouvre les festivités le jeudi 15 juillet. Qu'allons-nous entendre, Christian ?
Alors on va entendre une forme de raga assez rare, même très rare, c'est du jugalbandi d'Inde du Nord. Qui a été initié pour les connaisseurs essentiellement par Bismillah Khan. Donc un jugalbandi, c'est une conversation de deux instruments, hein. Ce sont deux instruments qui conversent comme ça. Un raga aussi, un rappel pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un, donc c'est une musique pratiquée avec une architecture sonore assez complexe qui généralement prend une forme différente suivant la nature du public, l'endroit où ça se joue ou l'esprit de la soirée. Donc il n'y a une fois pour toutes pas de raga qui sont semblables. Donc ce jugalbandi d'Inde du Nord sera original parce que à cette conversation entre les deux instruments sera rajoutée pour la première fois une voix, et donc ce qui donne une particularité, une couleur tout à fait extraordinaire à ce concert.
Quels sont ces deux instruments ?
Alors les deux instruments, c'est un instrument à cordes donc, qui est pratiqué essentiellement dans ce genre d'événement. Donc ici, on retrouve le sitar et aussi le tabla, qui sont les instruments les plus usités dans ce genre de conversation à deux, et bien sûr additionné de la voix, ce que nous entendrons donc ce soir.
Prabhu ji nahi ho mohe ab nazaran mein Prabhu ji nahi ho mohe ab nazaran mein Mayo na main ka jag mein na Brother. नयो मुआए अब नजर न मेरे
Jugal Bandy d'Inde du Nord. Donc à l'instant sur Divergence, nous sommes toujours en compagnie de Christian Florentin pour, eh bien, dans cette deuxième partie d'interview, détailler le programme, la programmation de cette 15e édition du festival Autre Rivage Musique du Monde en Pays du Zest qui se tient du 15 au 31 juillet. Ce qu'on entendait là à l'instant, c'est donc ce que pourront entendre les gens qui seront présents le jeudi 15 juillet. Ça se passe où ?
Oui, alors ça se passe où ? La première question, c'est une question très simple, ça se passe à Uzès. Parce que les villages dans lesquels se produisent l'ensemble des escales de ce festival nomade, c'est un festival qui se déplace de village en village, les villages sont autour d'Uzès, à une distance de 3 km. Uzès, c'est un peu une espèce de diamant couronné de villages. Voilà, donc on se situe autour et c'est aussi un moyen de visiter des lieux qui sont a priori non véritablement prévus pour accueillir ce genre de spectacle. Je veux dire des jardins de château, des cours de bastide, aussi des places de village qui accueillent ce genre d'événement, qui donne d'ailleurs un caractère tout à fait intimiste à ce genre de manifestation.
Et ce sera donc Saint-Siffré pour cette soirée inaugurale du jeudi 15 juillet, soirée indienne, quelques jours plus tard, le dimanche 18 juillet. Ce sera donc à Uzès, cette fois-ci au Jardin de l'Évêché, que l'on retrouve la confrérie Rkeb Al-Filali de Meknès. Là encore, le Maroc, l'un des invités presque permanents de ce festival, mais sous différentes formes.
Oui, on en parlait à l'instant en antenne, c'est depuis que nous travaillons sur les musiques du monde, on se rend compte qu'il y a des pays qui sont d'une extraordinaire diversité en termes de richesse musicale, le Maroc en illustration. Donc en fait, la confrérie Aïssawad Meknès, qui est une confrérie soufie, vient à la suite finalement d'une longue lignée dont je citerai certains, comme les Gnawad et Sawira, les Bnet Mouariat, les Bnet Marrakech, ou l'ensemble du musique arabo-andalouse de Tanger que nous avions invité par le passé. Donc on est quand même dans cette continuité et on voit là effectivement que dans un pays qui n'est pas finalement immense comme le Maroc, il y a une tradition musicale d'une extraordinaire richesse. Alors, parlons deux secondes de la confrérie soufie Aïssawa qui s'appelle Rkeb Al-Filali, que nous accueillerons au Jardin de l'Évêché le 18 juillet. Elle sera d'ailleurs annoncée, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur votre antenne, mais il y aura un plateau spécial qui sera fait par France Musique dans le cadre du Festival de Radio France à Montpellier, pour ceux qui veulent les entendre et qui ne peuvent pas se déplacer, entre 18h et 19h en direct. Ce sera gratuit et qui pourront entendre quelques extraits de la cérémonie soufie qui sera produite le lendemain soir, le 18 juillet, dans les jardins. Alors, c'est une cérémonie dans son intégralité. C'est-à-dire que là, on est véritablement hors formatage, on n'est pas dans un format de plusieurs morceaux extraits musicaux de 1 minute 30, 2 minutes qui vont se succéder.
Un peu comme les Lila Gnawa.
Voilà, donc on est... oui, effectivement, parce que de toute façon, les cérémonies soufis Aïssawa ou les Gnawa ont les mêmes origines, les origines africaines noires, donc ils ont vu l'esclavage qui a été pratiqué à un certain moment, ramener finalement... disons de leurs origines africaines à un certain nombre de rituels, ce qui donne par rapport à l'orthodoxie de l'islam une espèce d'espace de respiration. En fait, les cérémonies soufis permettent aux Marocains d'avoir une certaine liberté. Alors en même temps, c'est vrai qu'on est quand même malgré tout dans un rituel qui s'est totalement arabisé et on a quand même là un rituel qui est très précis. Pour faire simple, ça se situe en cinq, grandes étapes. Donc une introduction où effectivement il y a des poèmes qui sont chantés et le chœur donc répond par rapport à ces poèmes. Ça c'est la phase donc d'intro. Ensuite la phase paroxystique est un tonnerre, on pourrait dire, de percussions accompagnées de danse. Donc l'architecture donc des figures chorégraphiques est assez complexe, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Qui peut aller jusqu'à l'extase, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même un arrêt avant que l'extase ne soit véritablement consommée, et une phase, disons, de déclin où on retrouve en quelque sorte finalement son calme. Le tout dure d'une... Alors, bien sûr, une heure et demie, deux heures, c'est variable suivant la nature de la soirée. Là, on retrouve un petit peu l'esprit du raga, mais on est quand même face finalement à une cérémonie complète sans interruption.
Avec cette dimension thérapeutique que peuvent revêtir aussi les cérémonies Gnawa.
Oui, on est toujours dans ce rituel thérapeutique qui, d'ailleurs, n'est pas simplement propre qu'au Maroc. Hein. Les cérémonies soufis, le dirk en particulier, est pratiqué dans l'ensemble des pays, disons, arabes, l'Algérie, la Tunisie, également l'Égypte. Je rappelle, par exemple, qu'un des maîtres du dirk en Haute-Égypte avait été accueilli dans le cadre de notre festival, qui s'appelait, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui l'ont entendu, qui s'appelle Cheikh Ahmed Al-Touni. Et effectivement, c'est vrai qu'on voit encore que ces chants, ce sont des chants hypnotiques repris par le cœur, ont une dimension donc qu'on pourrait qualifier d'extatique et qui pourrait s'étendre dans certains cas à une dimension thérapeutique. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est comporté quand on parle de ces musiques-là.
Une nouvelle pause musicale et cette fois-ci on part en Iran.
دردی دلان خواهزانه خواهزانه خود زنی حسن خونو فات مکنی آخ حسن خونو فات مکنی فات مبر نجیریست کنی آخ آن لرانو بگ لرانو هر نپیشین التماس کن هر نپیشین التماس کن بلکن یاره من خلاص کن فاطمه من مانر 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 و میوانه و میوانه و میوانه حسن خانو فاطمه کنی درد دل خواهزانه خواهزانه خود زنی حسن خانو فاطمه کنی آخ حسن خانو فاطمه کنی فاطمه بر نجیریستانی خانلرانو بگلرانو هر نپیشی نلت ماسکینی هر نپیشی نلت ماسکینی دیگی 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 بلکه نیاره من خلاص کن خلاص پرزراوه حسن خونو فاطمه کنی قسمت بیوه من هلگری من هلگری من هلگری من هلگری حسن خونو فاطمه کنی آخ حسن خونو فاطمه کنی فاطمه بر نجیریست کنی آخ خان لرانو بگ لرانو هر نپیشی نلتماس کنی هر نپیشی نلتماس کنی
Nous étions donc là en Iran avec Hamid Kerzi et Abbas Bakhtiari, deux musiciens du sud de l'Iran.
Alors on va accueillir Hamid Kerzi, effectivement c'est une région qui s'appelle la région du Khorasan, qui répond d'ailleurs au doux nom, si on le traduit en français, à finalement là, les terres du soleil levant. On retrouve de suite cette espèce d'éclairage tout à fait particulier des noms du Moyen-Orient qui sont assez enchanteurs et poétiques. C'est d'ailleurs effectivement une région qui est extrêmement prisée parce qu'elle a été traversée très longtemps par la route de la soie. Évidemment, elle était un creuset culturel de différentes influences. Et Hamid Kezri, qui est donc iranien, a travaillé sur un collectage de musique du XVIe siècle de cette région. Donc on est quand même dans une musique classique persane. C'est-à-dire on n'est pas dans, dans une musique populaire. On est quand même dans une forme de musique un petit peu plus difficile, dont certains te connaissent au travers d'un maître qui s'appelle Alireza Gorbani, qui passe assez souvent d'ailleurs au Théâtre de la Ville à Paris. Donc on est dans cette lignée, dans cette sophistication extrême que peut avoir finalement la musique persane. Et ce qui est extraordinaire, donc il joue d'un instrument c'est un instrument à cordes qui s'appelle le daf. Qui s'appelle Dotar, et qui, cet instrument est un instrument qui était utilisé effectivement à l'époque, mais qui n'est plus largement usité comme ça maintenant dans les musiques contemporaines qu'on peut entendre sur les différentes scènes européennes. Ceci dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va être accompagné de Abbas Bakhtiari. Abbas Bakhtiari est surtout connu parce que c'est un peu, comment dirais-je, le musicien fétiche de Tony Gatliff. On a surtout reconnu son talent lorsqu'il a composé la musique du film L'Exil. Et à forte raison, parce que finalement, Abbas n'avait pas eu trop de problèmes pour composer cette musique, parce que lui-même était exilé. Il est directeur du centre culturel iranien à Paris, au Quai Djemap. Il est aussi cinéaste à ses heures, donc il n'est pas simplement qu'un magnifique instrumentiste du DAF, qui est un tambourin qui est tenu à bout de main et qui accompagnera donc exceptionnellement Hamid Kezri. Alors, c'est une rencontre que nous avons organisée. Il faut quand même savoir que ces deux musiciens ne jouent pas traditionnellement ensemble, mais à l'occasion de ce festival, ils joueront donc ensemble. Ce sera vraiment une grande soirée en perspective. Une grande soirée en perspective, d'abord par deux grands instrumentistes, par deux grands connaisseurs de la musique traditionnelle perse, ce qui est quand même assez rare. Donc c'est un inédit, il faut bien comprendre que c'est une des premières rencontres, je crois même que c'est la première rencontre qu'ils vont pratiquer. Et on pense que ça va être certainement une soirée assez extraordinaire. De plus, l'endroit où ça va se jouer, c'est un endroit assez spécial. C'est une place avec d'immenses tilleuls centenaires. Donc ils font un toit de verdure qui s'adaptera, à mon avis, tout à fait bien. Il ne restera plus que le beau temps pour une soirée aussi exceptionnelle.
C'est là que la rareté pointe à nouveau le bout de son nez. Ça se passera donc le jeudi 22 juillet à partir de 22h dans la cour que vous décriviez, qui est la cour de la mairie des Galliers. On passe au concert suivant. Le concert suivant, ce sera le samedi 24 juillet à 22h toujours. Cette fois-ci, c'est au Portugal que l'on va. Et ce sera du fado masculin, voilà, qui n'est pas courant.
Oui, alors le fado homme, c'est vrai qu'on entend assez peu le fado homme. Il est surtout pratiqué dans la région du nord-est du Portugal, en particulier dans la région de la Lanterre. La Lanterre, c'est une région qui accueille finalement ces musiciens traditionnels et qui pratique un chant qui s'appelle le cante alentejano. Je crois que c'est un chant qui est essentiellement pratiqué par les hommes. Et Anthony Jean-Bougeot, lui, a un fado qui est un fado qui, pour nous, est intéressant parce qu'il montre que, quelque part, même les musiques traditionnelles évoluent. Elles évoluent avec différentes influences. Notamment, quand Antonio Zambouche chante, il chante, je dirais, moi, à mi-chemin entre, finalement, Caetano Veloso et puis, finalement, Amaya Rodriguez. Donc, on est quand même dans une nouvelle voix du fado. Alors, voix VOIX, parce que d'abord, c'est une voix extraordinaire, extrêmement séductrice, et une nouvelle voix VOIE, parce que, effectivement, quand on voit sur le titre d'ailleurs de son dernier CD qui s'appelle Outro Sentido, on voit bien qu'il défriche finalement une autre forme de fado, peut-être moins grave, peut-être moins profond, peut-être moins solennel que ce que nous avons entendu et que nous aimons tous dans le fado traditionnel. Il rajoute peut-être, je dirais, moi, une espèce de dimension de séduction, certainement influencée par des chanteurs très connus, dont j'ai cité Caetano Veloso, mais pourquoi pas Raul Gilberto aussi, qui ont influencé, à mon avis, beaucoup la teneur de sa voix. Enfin, en tout cas, c'est une forme très simple. On est quand même dans la forme du fado, c'est-à-dire une guitare, on est avec une contrebasse, et on est aussi avec donc un chant. Donc c'est la forme quand même la plus dépouillée sur le plan instrumental, mais on a quand même, malgré tout, au niveau de la voix, un travail qui définit une nouvelle voix, donc VOIE, du Fado. On est très content de l'accueillir.
Ce sera le samedi 24 juillet, donc à Saint-Quentin de la Poterie, place de la Liberté. Mardi 27, cette fois-ci, c'est en Argentine que l'on va, avec un musicien considéré comme l'un des meilleurs compositeurs argentins par la regrettée Mercedes Sosa, ce qui n'est pas rien. Il s'agit de Raúl Carnota et son projet San Luca.
Oui, alors là, on est ravis, forcément, parce que, bon, si vous voulez, Raúl Carnota, c'est un monument à Buenos Aires. Il a remporté des prix multiples. Effectivement, c'est vrai que c'était quand même fétiche de Mercedes Sosa. De plus, il est accompagné d'un musicien tout aussi extraordinaire qui, lui aussi, a joué avec Mercedes Sosa, c'est Franco Luciani. Et l'originalité du travail que va faire Raúl Carnota, c'est effectivement le tango qui restera quand même malgré tout la colonne vertébrale de l'ensemble de ce concert, mais aussi, je dirais, une espèce de song movie Amérique du Sud, une réappropriation finalement des musiques traditionnelles argentines, et qu'il va visiter au travers de ce concert. Alors, on est quand même malgré tout dans un processus expérimental. J'étais très ennuyé pour arriver à nommer ce genre musical. Je l'appelais ça tango nuevo. Je ne sais pas si c'est véritablement la bonne appellation. Je crois que là, véritablement, on est face à un espèce de phénomène qui pourrait s'apparenter en France à Nougaro. Je pense que Raúl Carnota est au tango ce que Nougaro était au jazz. Je pense que vraiment, si on doit faire un parallèle, pour essayer de bien faire saisir qui est Raúl Carnota, c'est ce travail-là, donc ce travail de parole qui pèse des tonnes. Donc je sais qu'ici, il y a beaucoup d'hispanophiles qui vont certainement apprécier la teneur de ces textes. Et d'autre part, j'ai écrit quelques mots qui me semblent tout à fait représentatifs de leur musique, parce que, à vrai dire, leur pressbook n'était pas très éloquent. Ils sont beaucoup plus éloquents derrière l'instrument qu'au niveau de l'écrit. Et j'ai écrit que leur musique représente à mes yeux un instant précieux au parfum d'une fleur de peau écorchée vive, délivrée prodigieusement par trois musiciens d'exception, qui, au travers de leur fêlure, laissent passer un peu de lumière. Je crois que c'est ça, finalement, ce qui est vraiment au-delà de la qualité d'instrumentation, de la qualité des textes, etc. Je pense que c'est la qualité de ces hommes. C'est ces hommes qui, on sent bien, quelque part, qui sont capables d'une émotion rare dans la traduction, finalement, de leur interprétation musicale. C'est, pour moi, peut-être le concert le plus difficile, et certainement le plus intéressant, enfin en tout cas pour moi, j'ai été très sérieusement bouleversé lorsque je les ai entendus pour la première fois. On est quand même face à un tango tout à fait original, tout à fait imaginatif, qui est à mon avis extraordinairement intéressant à découvrir.
Et que nous découvrirons en fin d'entretien, puisque c'est avec ce projet San Luca que nous nous quitterons d'ici quelques minutes, non sans avoir évoqué la dernière soirée de ce festival. Ce sera le samedi 31 juillet, et cette fois-ci c'est le retour de Cuba avec le septeto Nabori et Raíces del Son, les racines du son cubano.
Oui, alors les racines du son cubano, oui, parce que effectivement. Ce sont des purs produits, tout le monde le sait maintenant, de la Casa de la Trova. Donc, tout le monde sait que c'est le temple, finalement, de la musique cubaine par lesquels ils sont passés. Je crois que là, on est dans la forme la plus authentique, celle qu'on a pu découvrir, que tout un chacun a pu découvrir au travers du film de Wim Wenders, Buena Vista Social Club. On est dans cette espèce de musique qui maintenant font partie, moi je dirais presque du patrimoine musical, en tout cas du sud de la France, qui s'est réapproprié cette musique. On est très très content de les avoir. Je sais que bon, ils sont eux aussi ravis. Il faut savoir que aussi les musiques du monde, jusqu'à maintenant on a vu des musiques à écouter. Là, effectivement, bien sûr, on va quand même un petit peu rompre avec ces musiques à écouter, c'est une musique à danser. Forcément, le festival ne se termine jamais sur une note triste, donc ce sera une musique à danser. Il y aura, pour l'occasion, dans les arènes camarguaises de Remoulin, qui sont des arènes qui sont classées, qui sont très belles, avec un beau toit de verdure, encore une fois, à côté du pont du Gard. On aura donc une large piste de danse qui permettra de pouvoir accueillir les amateurs de danse cubaine.
Eh bien, on vous souhaite qu'ils soient nombreux, et on n'en doute pas. Plus de renseignements sur l'ensemble de cette programmation, eh bien, sur le site www.autrerivage.com, autre rivage au pluriel, séparé par un tiret. Un numéro de téléphone également, c'est le 04 66 22 68 88. 04 66 22 68 88. Christian Florentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Que peut-on vous souhaiter pour cette 15e édition?
Eh bien, d'abord qu'il y en ait une 16e, ça c'est de moment le, la chose la plus importante. Et puis, je voudrais dire aussi que je pense qu'il est important, si j'ai un petit message à envoyer à tous nos amis qui travaillent sur les musiques du monde, c'est de toujours penser que quelque part, il y a effectivement dans une démarche, une démarche pédagogique qu'il ne faut jamais oublier.
Merci beaucoup et bon festival.
Refugio de los paisanos, descanso del caminante, ombú de los tucumanos. Descanso del caminante umbú de los tucumanos. Al ver tu estampa bizarra acude a mi memoria el gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Debajo de la morena bailaremos esta samba. Pasaría la vida entera cantando con todo el alma. Pasaría la vida entera debajo de la morena. Tronco añoso y a tu imagen redentora, a los humildes y antaño mateando bajo la mora, a los humildes de antaño mateando bajo la mora. Humilde tu fruta mora, que a golpes voltean los changos y caen como lagrimones, cual si estuvieran llorando, y caen como lagrimones, cual si estuvieran llorando. Debajo de la morena bailaremos esta sal. Pasaría la vida entera cantando con todo el alma. Pasaría la vida entera debajo de la morena.
Marco Luciani.
Et c'est sur ces notes argentines que se referme l'édition du jour de Ici l'Ombre. Demain, fête nationale, pas de Ici l'Ombre, on se reposera du bal populaire, des pompiers et des feux d'artifice divers et variés dont on ne vous a pas parlé, c'est vrai, aujourd'hui. Retour donc de Ici l'Ombre, jeudi 15, et ce sera en compagnie de Gilles Gouget.